Amen. Il sera béni, oui, l'homme qui obéit, il sera béni. Vous le croyez? C'est écrit. C'est très facile à croire. C'est peut-être un petit peu plus difficile à concrétiser. Alors nous allons partager un sujet. Une étude ne suffira pas. Nous en ferons une deuxième sur le côté vraiment pratique. Je vais commencer par le début. Et surtout, c'est un sujet qui a été très mal présenté, souvent. J'ai lu des ouvrages sur l'occultisme, et souvent ces sujets ont été très mal présentés, à tel point que les croyants mal affermis qui ont partagé ces sujets sont plus tombés dans la crainte ou la superstition, qui est une forme d'occultisme aussi, la superstition. Donc je ne veux pas que nous tombions dans ce travers. Je voudrais apporter une introduction qui sera longue, c'est vrai, mais nécessaire, et vous rappeler plein de versets bibliques qui vont peut-être vous aider à comprendre le plus important. Par exemple, lorsqu'il est dit dans Jean chapitre 10, alors on rappelle des versets comme celui qui vient d'être chanté. Vous avez remarqué que depuis le mois de juillet, on rappelle souvent l'importance de la mort à soi-même. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une clé, un pour la bénédiction, la grande bénédiction. Vous pouvez mettre même un B majuscule. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, vous avez des versets qui vous enseignent et qui vous rassurent. Parce que vous n'avez pas besoin de tout savoir sur l'occultisme. Mais vous avez besoin de savoir ce que la Bible dit. Ça suffit. Regardez, quand Jésus dit, par exemple, dans Jean, voyez au chapitre 10, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ceci, Jean chapitre 10, verset 3. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix. Il appelle par le nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc déjà, vous avez une indication importante. Un chrétien, il sait ce que Dieu dit. S'il ne sait pas ce que les étrangers, les fausses doctrines enseignent, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il sache ce que Dieu dit. Il y a des chrétiens qui sont friands d'apprendre tel sujet. Je vais abréger, bien sûr. Mais ça sert à rien. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu dit? Mes brebis, elles connaissent ma voix. Vous voulez tenir debout? Vous voulez être fidèle jusqu'à la fin? Voilà. C'est pas important que vous sachiez tout sur la magie noire, sur la magie blanche, sur la radiesthésie, sur l'acupuncture. Alors, il y a des sujets que moi, je suis incapable de traiter. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous sachiez si Dieu nous demande de nous éloigner de ces choses. Mais il y a des choses qui sont compliquées. Plusieurs personnes m'ont parlé de l'hypnose. Je vous donne un sujet, c'est un sujet délicat, parce qu'il y a l'hypnose récréative, de spectacle, et puis il y a l'hypnose médicale, d'accord? Oui, rien que déjà. Mais quand même, rien que si on parle de l'hypnose récréative, ou un spectacle, quand on voit, moi je ne regarde pas ces choses, mais on me l'a eu dit, quand on voit que des hommes forcent par exemple telle catégorie de personnes à se déshabiller entièrement, vous croyez que ça vient de Dieu ça? Vous voyez? Alors il y a des choses, il n'y a pas besoin d'être un grand prophète, un grand spécialiste. Il y a des choses, elles sont contraires à la volonté de Dieu. Donc on s'en éloigne. Alors on va faire une lecture qui nous met dans le vif du sujet, une lecture qui va faire certainement soulever des questions. Alors voilà, ça sera une grosse introduction. La suite, je vous la donnerai sur papier, on la partagera avec des questions et des réponses, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets qui nous parlent de la... des sciences occultes. D'accord? 1 Samuel, chapitre 28. Saül a été... Alors on commence par un exemple qui est terrible. Qui est terrible, pourquoi? Parce que c'est un homme qui a vraiment marché avec Dieu. Il connaissait les choses de Dieu. C'est pour ça que je l'ai pris. Alors peut-être que ça va soulever plus de questions que de réponses, mais ça ne fait rien. 1 Samuel, chapitre 28, verset 7. 1 Samuel 28, verset 7. Saül dit à ses serviteurs, c'était à la fin de sa vie, il allait très mal spirituellement. Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ce qui évoque les morts et ce qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter ? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Samuel était mort depuis quelques années. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé ? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu ? Déjà, vous avez une grosse indication là. Qu'il y a des gens qui ont vraiment le pouvoir de faire apparaître des gens, qu'il n'y a qu'eux qui les voient. Ce sont des fameux médiums qui ont le pouvoir de voir certaines choses. Mais Saül, lui, ne le voyait pas. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il faut réfléchir quand on lit la Bible. Il lui dit, quelle figure a-t-il ? Elle lui répondit, c'est un vieillard qui monte, il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ? Saül répondit, je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi ? L'Éternel te traite comme je l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Amen. Voilà. Vous connaissez tous bien cette histoire ? Alors, je vais vous dire, cette histoire, on l'abordera. On l'abordera parce qu'elle est très compliquée. Vous êtes d'accord ? C'est compliqué. Oui ou non ? Oui ou non ? C'est même fait. Ça vous montre la puissance des ténèbres. Ça vous montre aussi la puissance de Dieu qui contrôle tout. Et on va lire un autre texte. Ce sont des textes que je vous exhorte à méditer. Alors si vous allez sur Internet voir les commentaires de ce chapitre, vous allez en avoir de tout. Je vous conseille d'éviter. Dans Deutéronome, alors peut-être d'abord Lévitique. Lévitique 19, pour bien voir ce que l'on a partagé, Lévitique 19, verset 31. C'est compliqué ces affaires, vous allez voir. Mais ce n'est pas grave si vous ne le maîtrisez pas, croyez-moi, ce n'est pas grave. Ça n'a aucune importance par rapport à votre protection spirituelle. Lévitique 19, verset 31. « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point. De peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel, ton Dieu. » Verset 6 du chapitre 20. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Verset 27. Si un homme ou une femme ont à eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. On va lire un texte quand même dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. C'est impressionnant ce qui s'est passé. On ne va pas tout lire, mais on va lire Actes 19, verset 13. Qu'est-ce qui se passe lorsque les gens se convertissent vraiment ? Parce que quand les gens se convertissent et qu'ils restent idolâtres, moi je peux vous dire qu'ils ne se sont pas beaucoup convertis. Vous comprenez ? C'est Paul qui dit aux Thessaloniciens, comment vous êtes convertis en abandonnant les idoles ? Quelqu'un qui se convertit et qui continue à prier la Vierge Marie ou les saints, laissez-moi vous dire qu'il ne s'est pas beaucoup converti. Ça, c'est sûr. Acte 19, verset 13. quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Je ne sais pas si vous avez vu d'où ils venaient. Pour vous dire comment ils avaient veillé. Vous avez vu d'où ils venaient ? De la famille de sacrificateurs. Ça fait, c'est une honte. Bon, c'est pas grave. C'est passé. L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître d'eux, des deux d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques avaient rapporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Vous vous rappelez l'autre jour que je vous ai dit que quand on a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, ça correspondrait aujourd'hui au prix d'une Twingo. Ça vous donne aujourd'hui l'idée du parc automobile que ça représente. Je ne sais pas si vous subdivisez 50 000 par 30, le nombre, l'argent que ça représente. Ça vous montre la quantité de gens qui, en se convertissant, abandonnaient ces sciences occultes. Ça représente des millions, ça représente. Ce qui nous prouve combien c'est répandu, comment ça l'était à l'époque, comment aujourd'hui c'est encore plus démocratisé, accepté. Avant, on vous présentait les sorcières avec un chapeau pointu, un nez crochu, des boutons partout, vieilles, moches, habillées de noir sur un balai. Maintenant, les sorcières, je peux vous dire que ce sont de jolies femmes ou de jolis hommes qui sont appréciés, acceptés, tolérés et à qui on demande même des autographes ou des cours. Voyez un petit peu comment ça a changé à une centaine d'années. Donc, commençons par le début. Je sais combien beaucoup de chrétiens, quand ils se tournent vers Dieu, certains sont mystiques, certains sont déséquilibrés, certains sont encore superstitieux. Et je ne veux pas tomber dans une étude qui ferait que des gens auraient plus de crainte qu'autre chose. Il faut commencer par le début. Et c'est vrai qu'il y a des choses mauvaises. On vient de voir comment Saül, qui était un homme de Dieu, qui a désobéi, et il s'est tourné vers le mal. C'est pas le seul. Hein. Si on prend l'exemple des rois, regardez ça. Moi, je connais un gars qui avait un très très bon pasteur. Il s'appelait Judas. Est-ce qu'il avait un bon pasteur, Judas ? Vous trouvez que c'était un bon pasteur ? Oui. Moi, je vous avoue que je le prendrais bien comme pasteur, même s'il l'est déjà. Mais ce que je veux dire, comment il a terminé, Judas ? Qu'est-ce qui, à un moment donné, il a dit que Satan est entré en lui. Vous rendez compte ? À cause de quoi ? De l'amour de l'argent. Pas de l'argent. L'argent, c'est pas un péché, c'est l'amour de l'argent. Vous voyez comment. Mais il y a plein de gens qui disent oui, l'argent, c'est pas bien. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est ridicule ça. L'argent, c'est bien. Si on l'utilise, bien. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et Satan est entré en Judas. Voyez, on pourrait prendre des exemples qui nous montrent comment on peut donner accès au diable et comment ça se termine. D'ailleurs, pour Saül, on a commencé, ça serait bien de voir sa fin. Qu'est-ce que Dieu dit de sa fin ? Dans 2 Chroniques 10, verset 13. Je vous dis, on prendra une autre réunion pour tout ce qui est plus technique. Là, ce soir, je voudrais vous rassurer par rapport à la force du Seigneur. C'est important, mes frères et sœurs. Quand je vois la quantité de chrétiens mystiques, moi, je ne veux pas faire les choses n'importe comment. 1 Chronique, verset chapitre 10. 1 Chronique, chapitre 10, verset 13. C'est sérieux, cette affaire, vous savez. Mais Dieu nous laisse libre. Saül était un homme de Dieu, un homme humble. Il a été choisi parce que c'était le meilleur des chrétiens, des croyants à l'époque. Et il a terminé comme étant le plus mauvais. Ça va vite, vous savez. On peut vite descendre. Vous le savez. Ça peut aller très vite, une chute spirituelle. Quand vous voyez Saül au début de sa vie, comment il a été loin de Dieu. Loin. Tu te dis, c'est pas vrai. Eh ouais, il y a des chrétiens, ils commencent bien, ils finissent mal, et l'inverse est vrai aussi. 1 Chronique 10, verset 13. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa pas la parole, les conséquences donc, et parce qu'il interrogea et consulta ce qui évoque les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir. Voilà donc les conséquences terribles de ne pas vouloir chercher Dieu. Quand vous ne cherchez pas Dieu, vous êtes amené plus ou moins à chercher ailleurs des solutions. Et voyez le résultat. Alors commençons vraiment par le début. Jésus a commencé son ministère dans Matthieu chapitre 4. C'est important pour moi. Je pense que plusieurs parmi nous et peut-être parmi les gens qui écouteront cet enseignement ont besoin d'entendre ça. Quand Jésus a commencé son ministère, Satan, de suite, s'est proposé de lui accorder beaucoup de choses, en principe, et surtout l'autorité sur tous les royaumes. Vous savez, les tentations, il y en a. Vous le savez qu'il y en a des tentations ? Des tentations, il y en a tout le temps, sous toutes les formes. Sous toutes les formes, le monde est rempli d'artifices et de vérités, enfin de vérités, de possibilités de se faire piéger par le diable. Là, donc, Jésus va commencer son ministère, Matthieu chapitre 4, verset 8. Et regardez, j'insiste pour que vous soyez forts et non pas perturbés à la fin de cette réunion, comme je sais que certains l'ont été lorsqu'on a mis les choses à l'envers. Il faut que vous sortiez fortifiés. Matthieu chapitre 4, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. C'est important, mes frères et sœurs, que vous compreniez bien que c'est Dieu qui est tout puissant, avec des majuscules partout. Le diable est puissant, oui, mais Dieu est tout puissant. C'est pour ça que j'ai commencé avec ce texte, mes brebis, elles connaissent ma voix, elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Je le répète, ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas comment marche, comment fonctionne la lévitation, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous ne vous en approchiez jamais. On va aller beaucoup plus loin là-dedans, bien entendu. Donc Jésus nous enseigne qu'il faut lui résister. Il y a des textes qui... Vous avez des textes en tête ? Résistez au diable et soumettez-vous à Dieu. C'est bien, Jacques 4, 6. Alors je vous donne ces textes, il faut les lire. Parce que l'importance, elle est là. Que vous sachiez ce que Dieu demande. Mes brebis, elles connaissent ma voix. Et il y a des chrétiens qui racontent n'importe quoi et qui disent n'importe quoi, qui rendent les chrétiens superstitieux. C'est déplorable. Enfin, s'ils lisaient la Bible, ils n'en seraient pas là. Regardez, alors c'est... Qui c'est qui a donné deux références ? Jonathan. Alors, Hébreu, Jacques. Jacques, chapitre 4, verset 7. Voyez, c'est des versets que vous pouvez apprendre par cœur. Je peux vous dire que ça vous donnera de la force et de l'assurance. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alors juste après, on peut y aller, c'est dans Pierre. Si quelqu'un a cité Pierre, 1 Pierre 5, voyez, verset 8. Le verset 7, bon, vous le connaissez, soyez sobre. Qu'est-ce que ça veut dire, soyez sobre ? Ça veut dire qu'il ne faut pas boire de vin ? Non mais, aidez-moi. Comment ? Oui, il y a la sobriété à l'alcool, mais c'est en toute chose. En parole, est-ce qu'il faut être sobre en parole ? Par exemple, voyez, la sobriété, ce n'est pas que par rapport à l'alcool. Je vous le dis parce que j'entends tellement d'annerie. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, on voit bien, il faut comprendre que le Seigneur nous protège. Vous connaissez le Notre Père ? Qu'est-ce qu'il dit, le Notre Père ? Notre Père qui est aux cieux, délivre-nous du mal ou du malin. Est-ce que vous croyez qu'on peut la faire, cette prière, avec foi et que Dieu nous protège du mal ? Vous vous rendez compte qu'il y a des chrétiens qui ont peur du diable ? Alors on est dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez peur du diable ? C'est la question. Si on était honnête, je pense que si on mettait sur un papier, on aurait des surprises, même ici. Eh bien, il faut en parler. Alors, il y a pas que les sciences occultes. Il y a ce qui est... Combien les gens confondent l'occulte avec le charnel ou le terrestre. Moi, j'ai vu des gens ici qui disaient que la colère, c'était diabolique. Alors, la colère, est-ce que c'est diabolique ? Est-ce que c'est un lien occulte ? Aidez-moi. Non, mais vous allez aller dans des églises, on vous dit, si tu te mets en colère, c'est que tu as le démon de la colère. Je l'ai entendu, ça. Moi, je connais un frère qui était ici, qui est parti, parce qu'il a été, il a fallu que je lui explique qu'il fallait marcher autrement. Et il a été deux fois à Paris à une réunion de délivrance pour la colère. Il dit, mais non, la colère, c'est charnel. C'est terrestre. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Mais c'est important, vous comprenez? Parce qu'on va vous dire, oui, si ça va, si tu te mets en colère, alors est-ce que la colère, si elle se transforme en irritation excessive, elle peut donner accès au diable? Eh oui! Mais ce n'est pas parce que je me mets en colère que je suis possédé. Regardez, c'est pour ça que je commence par la solution. Parce que je ne veux pas que vous racontiez des âneries après, à la sortie. C'est vrai ce que je dis, je le pense. Colossiens chapitre 3, verset 5. Moi, il y a une dame qui est venue dernièrement, pareil, elle me dit, monsieur Beau, je suis possédé. J'ai dit, non, vous n'êtes pas possédé. On vous a dit que vous étiez possédé. Parce que la femme avait un comportement psychique un petit peu déréglé, mais il faut avoir du discernement. Voilà, ça c'est une des solutions. Est-ce qu'on peut prier pour avoir le don de discernement? Ben oui, vous priez. Quelqu'un va venir, je me rappelle, M. Roussel, il me racontait une histoire, dans l'église où il était, il y a un gars qui venait, et de temps en temps, il faisait des crises d'épilepsie. Il tombait par terre, il bavait et tout, et tout le monde s'est jeté sur lui, enfin les anciens, et au nom de Jésus, Satan sort, etc. Ça a duré je ne sais pas combien, des mois et des mois. Et le gars, il venait, pareil, chaque fois, il se jetait par terre, alors il a fini par se comporter comme quelqu'un de possédé, puisqu'on lui a dit qu'il était possédé. Et puis un jour, il y a quelqu'un d'intelligent qui a dit, mais pourquoi on ne lui ferait pas faire une radio à cet homme? Et ils lui ont fait faire une radio, et il avait un nerf pincé dans le cerveau, au niveau du cervical, hein. Et il a opéré, il était guéri. Mais par contre, il est probable que des gens se comportent comme ça en étant possédés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que, quand même, n'allons pas dire n'importe quoi. Mais c'est pour ça que tous les chrétiens ont la responsabilité de combattre un bon combat, et on devrait tous prier, dire « Seigneur, donne-moi du discernement ». Parce que vous savez, on a fait du mal avec ça. Hein? Moi, il y a des gens qui sont venus ici d'une autre église, plusieurs, et que par la grâce de Dieu, ils ont été restaurés, on leur avait dit qu'ils étaient possédés. L'autre parce qu'elle mangeait trop de chocolat. Ah ouais, mais je vous assure, on l'a entendu ça. Alors il fallait déchocotaliser la personne. Enfin, non mais voyez, on en rit parce que je préfère. Mais quand même, quand on dit à quelqu'un qui aime le chocolat qu'il a le démon de la gourmandise, c'est une œuvre charnelle. Quand même, quelqu'un qui a lu la Bible un petit peu, le Nouveau Testament, se rend compte, en Colossiens chapitre 3, verset 5, « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. » La débauche, l'impureté, c'est pas parce que quelqu'un est débauché qu'il est possédé, c'est terrestre. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Alors c'est à cause de ces choses, vous voyez, que la colère de Dieu vient. Verset 8, maintenant, renoncez à toutes ces choses. Il n'y a pas besoin de délivrance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, etc. Il faut y renoncer. Un petit peu avant, dans les Éphésiens, je vous citais le texte de chapitre du Éphésiens 4. Je commence par la solution. Peut-être certains vous allez être déçus, mais moi je ne prends pas le risque de faire en sorte que des gens soient dans la superstition après une réunion. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, si vous vous irritez en grec, si vous vous irritez, ne péchez point. Parce que quand on se met en colère, on devient un peu plus charnel. Vous l'avez observé, ça? Oui. Y a pas besoin. Est-ce que vous voulez une étude là-dessus? Non. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Bon, ça, c'est un conseil excellent. Est-ce que ça peut arriver de s'attraper avec quelqu'un? Je me dispute avec Céline parce qu'elle présente mal les cantiques, etc. Bon, vous avez remarqué. Bon, je me mets en colère, elle se met en colère, et à la sortie, je dis, écoutez, bon, le soleil s'est couché, enfin, bon, avant que la lune ne se lève, Céline, je vous demande pardon. Il faut faire gaffe, parce que quand on a de l'amertume, on a vite fait que cette colère se transforme en irritation profonde. D'ailleurs, c'est écrit, ne donnez pas accès au diable. Ouais, c'est pas pour ça que quelqu'un va être possédé. Mais quelqu'un peut commencer à avoir de l'amertume. Vous savez, l'amertume, c'est une prison dans laquelle les hommes s'enferment. On y reviendra dans la deuxième partie, la prochaine fois. Donc, ce que le diable veut, lui, il s'en fiche, lui, qu'on confonde la chair, ce qui est terrestre, ce qui est diabolique, ce qui est psychique, ce qui est physique, etc. Le diable, il s'en fiche. Nous, non. Parce qu'on veut être des chrétiens équilibrés. Ce que le diable veut, c'est que les gens l'admirent. Alors regardez dans Apocalypse chapitre 13. Moi, c'est un verset qui m'a fait beaucoup de peine. Parce que c'est ce qui se passe. Ça se passera surtout après l'enlèvement de l'Église, mais c'est exactement ce qui se passe. Franchement, c'est un verset qui m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup de souffrance. Regardez ce qui se passe. Apocalypse chapitre 13, verset 1er. Vous comprendrez. Vous acceptez qu'on commence par la solution ? Bon, c'est bien. C'est bien, vous êtes sérieux. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité, et je vis l'une des têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ça fait de la peine quand même. Oui ou non ? Nicolas, tu peux mettre la grande ventilation, s'il te plaît ? Merci. Remplie d'admiration, la terre remplit la bête. La terre entière suivit la bête. L'admiration, elle devrait être pour qui, l'admiration ? Pour qui elle doit être ? Vous avez vu ce que Jésus avait dit ? On l'appellera admirable. Franchement, ça fait mal au cœur de voir que toute la terre, après l'enlèvement, va se rebeller. Après l'enlèvement, ça va pas rigoler. Ça fait mal ce verset quand même. Vous êtes d'accord ? Vous avez vu ? La terre entière admire la bête. Cette admiration qu'on doit porter à Jésus, elle va être amenée au diable. C'est ça que le diable veut. Et si la terre est remplie de ces sciences occultes, ou de violence, ou de perversité, ou de mauvaise sexualité, ou de meurtre, tout ça, le diable, lui, il fait feu de tout bois pour détruire les gens. Il n'a qu'un but, détruire. Il n'y a pas un verset où Jésus a dit, le diable, il vient pour 3 choses. Égorger, voler et détruire. C'est son but, c'est sa passion. Il veut détruire. Pourquoi ? Pour que le maximum d'hommes et de femmes terminent avec lui en enfer. Voilà le grand conflit mondial. Il est là et nous devons connaître la voie du bon berger. Lorsqu'un homme... Alors on va commencer quand même. Lorsqu'un homme commence à s'intéresser aux choses occultes, alors vous allez me dire, oui, mais c'est jusqu'où ? Alors, Deutéronome 18, donc c'est le début, vous connaissez la Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, c'est le départ. Ça veut dire que dès le départ, Dieu veut que l'on sache ces choses. Un chrétien, il va peut-être pas comprendre bien le livre de Jérémie ou le livre d'Ézéchiel, c'est pas grave. Mais il y a des choses dans le Deutéronome, c'est le départ, les bases, Dieu les présente comme on le voit ce soir. Deutéronome 18, verset 9, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, ça veut dire lorsque tu seras devenu chrétien pour nous, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. » Regardez bien le verset 14, soulignez le verbe que je vais vous citer, « Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. » Voyez, je ne suis pas du tout sûr que les chrétiens aient bien lu le verset 14. Le seul fait d'écouter, ça nous connecte à l'ennemi. Et pourquoi, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous vous rendez compte combien ils se sont enganés là-dedans, c'est impressionnant. Et combien aujourd'hui il y a des chrétiens qui tolèrent ces choses. Moi, je ne peux pas regarder ces choses. Je ne veux pas, parce que je sais que ce n'est pas bon. Est-ce que vous le comprenez, ça ? Il y a des gens, par curiosité, ils disent « Oh, mais l'horoscope, mais moi je le regarde, c'est pour rire !» Il y en a qui relisent l'horoscope ici, pour rire ? Je suis sûr qu'il y en a. Levez-vous. Je suis sûr qu'il y en a. Eh bien, je peux vous dire que vous avez mis un doigt dans l'engrenage. Oh, monsieur Hugo, arrêtez vos trucs, c'est pour rire. Ouais. Mais moi, je peux vous dire qu'on commence par rire, et puis on finit, on continue par consulter une femme qui tire les cartes pour rire. Et sans vous en rendre compte, on vous connecte à tout ce qui est occulte, caché, invisible. Et c'est pour ça que des gens sont tombés après dans le spiritisme, pour s'amuser. On va faire tourner une table, mais c'est pour blaguer. Il y a des gens qui se sont suicidés après avoir fait ça. Enfin, si je vous raconte tous les témoignages, mais vous le savez que c'est vrai. Vous le savez. Et si Dieu nous demande de ne même pas les écouter, moi j'ai une nièce, il y a 20 ans de ça. C'est ma sœur qui m'a téléphoné, elle m'a dit, tu regardes cette émission, il y avait une émission sur le paranormal, je ne sais plus ce que c'était, ça fait 20 ans ou plus. J'ai dit, mais Josette, moi je ne regarde pas ça. Je ne regarde pas ça, la Bible dénonce ces choses, moi je ne les regarde pas. Elle me dit, oui, parce que depuis que ma fille les regarde dans la maison, il y a des bruits, il y a des trucs qui tombent, il y a des lumières qui s'allument toutes seules. Et bien, j'ai dit, mais tu as la réponse, moi je te conseille de te mettre à genoux et de demander pardon. Elle a attendu, puis un jour ça a dégénéré, et avec sa fille, elles se sont mis à genoux, elles ont demandé à Dieu pardon, et ça a été terminé. Mais il ne faut pas commencer à s'amuser avec ça. Quand vous regardez une émission, si vous regardez un pasteur à la télévision qui prêche l'évangile, qu'est-ce que vous faites rentrer chez vous? Dieu. Oui ou non? Mais c'est évident. Si vous regardez d'une façon ou d'une autre, par Internet, par la télé, quelque chose qui est occulte, le seul fait de l'entendre, Dieu est contre. Mes frères et sœurs, ce sont des choses sérieuses. On le relit, le verset 14? Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, mais non, je veux m'informer. Tu n'as pas à t'informer. Il te faut connaître ce que Dieu dit. Mes brebis, elles connaissent ma voix. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues. Rien que le fait de les écouter. Alors, oui, mais le verbe écouter, ça veut dire plus qu'écouter, ça veut dire également mettre, obéir. Non. Le seul fait d'écouter est un piège, mes frères et sœurs. Donc, dès le départ, le Seigneur nous met en garde qu'on ne trouve chez toi personne. Et vous devez veiller à ce que vos enfants... Aujourd'hui, moi, je suis choqué de voir comment il y a des chrétiens qui tolèrent, pour avoir la tranquillité, que leurs enfants aient la télévision dans leur chambre. Franchement, nous, on nous avait donné une télévision il y a 30 ans de ça, mais on n'avait pas le temps de la regarder. On n'avait même pas le temps de la regarder. Un jour, on a reçu notre petite nièce. Elle avait 3 ans, 4 ans. Et elle nous a dit, tonton, je peux regarder la télé, tout ça. Ben, il y a des dessins animés. Pour moi, les dessins animés, c'était super sain. Elle s'aïenne. Et puis tout d'un coup, elle était dans la petite salle, dans la petite chambre, en entendant la télé. Et nous, on était à côté. J'entends des bruits, des incantations. Je dis, mais c'est pas possible. Je rentre dans la chambre, ma petite nièce, elle était comme ça. Elle tremblait, elle était là, affolée. C'était des incantations sataniques. Et il y a des spécialistes du sujet qui ont dit que si on passait une matinée entière devant la télé à regarder des dessins animés, quelqu'un d'un peu sensible, il saurait tout ce qu'il y a de diabolique dans ces dessins animés. Parce que je peux vous dire qu'il y a des choses diaboliques dans les dessins animés. Ça vous fait rire peut-être. Peut-être que vous ne le croyez pas. Mais mes frères et sœurs, on pourrait quand même prier et demander à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce que mes enfants peuvent regarder? Est-ce que vous ne croyez pas que le Seigneur quand même peut nous le montrer? Mais c'est grave, mais il y a des choses graves. Et nous devons demander à Dieu qu'il nous donne du discernement. Parce que quand même, il y a du mal, mais il y a du bien. On va prendre la télévision, est-ce que c'est bien? Un couteau, répondons, un couteau. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal un couteau? Alors, est-ce que c'est bien un couteau? Ben oui, ça dépend de ce qu'on en fait. Voilà. Vous voulez me remplacer? La télévision, c'est pareil. L'ordi, c'est pareil. Voilà. Le corps. Avant notre conversion, Paul dit que notre corps, il était esclave de l'iniquité. C'est mauvais. Aujourd'hui, notre corps, il est esclave de quoi? De la justice. Donc, c'est pareil. L'important, c'est de comprendre les choses. Le rock, c'est bien ou c'est pas bien le rock? Alors, est-ce que tout le rock est mauvais? Moi, je pense que non. Je pense. Alors, attention, ce que je dis, je pense qu'il y a beaucoup de rock mauvais. Vous avez vu ce qui s'est passé? Parce qu'il y a rock et rock, attention. Moi, je suis un ancien. Je connais le rock. Mais il y a la musique. Alors, il y a un livre qui a été sorti il y a 30 ans par un prêtre. Rock and Roll, viol de la conscience par les messages subliminaux. Est-ce que vous l'avez lu, ce livre? Eh bien, je vous conseille de le procurer. C'est un prêtre qui l'a écrit. Il explique justement tous les dangers de l'occultisme dans la musique. Vous avez vu ce qui s'est passé au Bataclan? Vous avez vu ce qui s'est passé au Bataclan? Vous savez ce qui s'est passé quand les terroristes ont tiré sur la foule? Vous savez ce qu'ils étaient en train de chanter? Une chanson, où ils embrassent le diable. Sans commentaire. Il y a quelques années de cela, justement, on avait demandé, je crois, à Maëva de donner une appréciation sur une chanson, je ne sais plus si c'est Maëva ou qui, que ce soit. Et moi, j'étais à côté, et j'ai entendu, alors c'était une belle mélodie, j'ai dit, mais il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Mais non, c'est pas grave et tout. Il faut, allez, comme aujourd'hui, on peut avoir la traduction de suite, et la traduction, c'était des louanges au diable. Mais la musique était super jolie, et je pense qu'on devrait, quand quelque chose nous plaît, en plus maintenant c'est facile, regarder avec la traduction en anglais, en français, moi j'y connais rien en anglais, mais je peux vous dire qu'on peut tout savoir. L'autre fois, vous voyez, je regarde, à un mariage, il y a un couple, mais je vous donne, mais c'est un mariage, il y avait un couple de jeunes qui venaient ici, qui se sont mariés, ils ont voulu mettre la chanson de Leonard Cohen, Alléluia. Vous connaissez la chanson de Leonard Cohen, Alléluia? Vous la connaissez? Est-ce qu'elle est belle? Eh? Oui, elle est belle. Ah oui, parce que vous en doutez. Mais la mélodie, elle est formidable. C'est la mélodie d'Alléluia de Leonard Cohen, c'est merveilleux. Mais il l'avait mis au mariage, et moi j'étais là, je dansais presque. Moi. Et puis quand même, en rentrant, je me suis dit, tu vas regarder les paroles. Vous le ferez? C'est une chanson sur la Bible qui glorifie l'adultère de David avec Bathsheba. Et je peux vous dire que quand vous lisez les paroles, tu te dis, oh, mais c'est grave. Et bien sûr, tout ça avec des Alléluia et des Merci Seigneur. C'est pour ça que je crois qu'on peut avoir du discernement, mais aussi du bon sens. D'accord? Dieu nous met en garde qu'on ne trouve chez toi personne, que nous n'écoutions pas ces choses. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Le diable, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Au début, il nous dit de mettre en garde, et si on ne tient pas compte, eh bien regardez à la fin. C'est ça, là. C'est pour ça que j'ai prié, je commence par la fin, mais ça ne fait rien. Apocalypse 21, verset 8. Alors, verset 7, bien sûr, Dieu rappelle qu'un chrétien, il doit être dans la victoire. Alors c'est dit au singulier, alors qu'il parle continuellement au pluriel, pour nous rappeler que ce sont des choix individuels. Vous avez remarqué, Dieu parle, vous, puis paf, celui qui vaincra. Ça veut dire, quand c'est comme ça, que le pluriel domine, et qu'à la fin ça termine par le singulier, eh bien ça nous rappelle qu'en fin de compte, ce sont des choix individuels. Vous comprenez? Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, voyez, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Donc qu'est-ce que le diable veut? Et bien voilà, c'est ce qu'il veut. Il veut que nous tombions dans les sciences occultes, dans la débauche, dans le péché. Il s'en fiche qu'on soit au courant. Lui, il n'en a rien à faire. Ce qu'il veut, c'est nous entraîner dans son sillage et nous perdre. Alors le mot occulte, dans le dictionnaire. L'occultisme désigne l'ensemble des arts et des sciences occultes. Astrologie, magie, divination, etc. Touchant au secret de la nature et à ce qui est invisible. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Le mot français occultisme vient du mot latin occultus, qui signifie caché ou secret. Donc, bon, ça, c'est la définition. C'est bien d'entendre une définition par rapport à certains mots, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est de voir surtout l'honnêteté de Dieu par rapport à ces sujets. Pour montrer les dangers de l'occultisme. Moi d'ailleurs, je suis étonné de, parce que bon, Dieu est tout puissant, mais on peut pas tout comprendre. Mais cette honnêteté de Dieu, lorsqu'il nous parle les travers de quelqu'un, non pas pour le descendre, mais pour montrer certaines choses merveilleuses. Cette honnêteté, c'est extraordinaire. Donc la Bible est honnête également avec le sujet de l'occultisme. Et il faut voir pourquoi le diable au départ s'est révolté. Vous connaissez la chute du diable dans la Bible ? Vous la connaissez tous ? La chute du diable, comment le diable a chuté ? Alors on va le lire. C'est important pour comprendre, parce que vous voyez, vous allez me dire, mais c'est pas tout à fait le sujet. Mais si, c'est vraiment le sujet. Il faut que vous soyez fort, il ne faut pas que vous soyez dans la peur. Ésaïe 14. Je suis malheureux, moi, quand je vois des chrétiens qui ont peur du diable. Ça fait peine. Ça fait pitié. Il ne faut pas le dire, ça. Plusieurs m'ont dit, il ne faut pas dire, monsieur Gau, ça fait pitié. Michael, vous n'avez rien entendu. Non, je voulais voir si vous écoutiez. Ésaïe 14, verset 12. C'est la chute de Satan à cause de son orgueil et de sa rébellion. Voilà le titre dans ma Bible. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Regardez bien la réflexion qu'ils se font à l'enfer, les gens, quand ils voient le diable, quand ils le verront. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? En enfer, il n'y aura plus de puissance. Et les gens le regarderont et diront, mais si c'est lui. Et ouais. J'élèverai, je m'assirai sur la montagne de Dieu, je m'assirai sur le trône. Est-ce que vous croyez qu'il a toujours le même désir? Vous êtes sûr? Qu'est-ce qui est écrit dans Thessaloniciens? Qu'il s'assoit dans le temple de Dieu. Je peux vous dire que si les chrétiens ne sont pas déterminés, lui, il l'est. Et c'est ça, il veut entraîner les gens. C'était le bras droit de Dieu. C'était le responsable, on comprendra quand on y sera, la responsabilité qu'il avait. Il était parfait, parfait. Nous, on ne peut même pas comprendre ce que c'est, quelqu'un de parfait. On a jamais connu quelqu'un de parfait. Mais lui, il était parfait. Et ça ne l'a pas empêché de s'enorgueillir. Et un tiers des anges ont suivi le même choix. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on est libre. On est libre. C'est ça qui est merveilleux. Toutes les créatures créées comme les anges ou procréées comme nous par des parents, eh bien, nous avons la liberté de choisir. Un autre texte, c'est important, dans Ézéchiel 28. Alors, Ézéchiel 28. On fait des choix dans la vie. On fait le choix d'obéir, le choix d'être armé pour combattre le bon combat. Je crois que c'est une des premières fois que je commence une étude par la conclusion, mais écoutez, je pense que c'était bien. Ézéchiel 28. Alors, on va lire le texte en entier, c'est bien. Le roi de Tyr, dans ce texte, représente Satan. Tous les commentateurs sont unanimes par rapport à cette affaire. Ézéchiel 28, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à ta perfection. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. C'est ce qui fait dire à tous les commentateurs, à tous les théologiens, que si le diable est fort, c'est dans le domaine de la musique. Des tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Vous voyez un petit peu le décor, c'est extraordinaire. Tu as été intègre dans tes voies. Oh, le diable, il a été intègre. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et vous lirez la suite, c'est pas intéressant pour lui. Mais vous voyez, il a été intègre. C'était tout ce que Dieu a créé, bien sûr, était parfait. Mais il a choisi le mal. On est toujours, je le répète, on est toujours libre. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas être inquiété par les sciences occultes. Moi, j'ai entendu quelqu'un l'autre jour qui m'a dit, voilà, mais mes enfants, il ne faut pas qu'ils sortent le soir à cause des puissances de ténèbres. Mais écoutez, si vous êtes sous le sang du Seigneur, vous risquez rien. Vous le croyez, ça ? Mais vraiment, vous le croyez? Il y a quelques années de ça, je vous avais déjà raconté cette histoire. Je vais prier pour une femme qui avait le cancer. Et quelqu'un lui avait dit, t'as qu'à aller à l'église, on priera pour toi. Puis elle était vraiment, vraiment, vraiment pas bien du tout. Donc j'ai été chez elle. J'ai été chez elle, je parle avec elle, je dis, est-ce que vous avez la Bible? Oui, j'ai la Bible. Elle me l'a cherchée, c'était un missel, elle était dans une confusion pas possible. Je prie avec elle, c'était les derniers instants de sa vie. Je prie avec elle, et puis en partant, moi je lui dis au revoir, tout ça. Et puis son père rentre. Son père rentre et il me dit, qui êtes-vous? Mais j'ai dit, c'est elle qui a répondu, c'est le pasteur, il est venu prier pour moi, papa, tatatita, tout ça. Voilà, ah, priez pour moi aussi, parce que je suis malade, j'ai besoin de guérison, une type vraiment là, il ressemblait plus à celle que je vous ai parlé au début, là, vous savez, on est crochu. Je prie pour lui, et quand je prie, j'ai un malaise vraiment. J'ai dit, ce type, il est dans les ténèbres. Bon, je prie, j'arrête de prier. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Elle me dit, je suis agriculteur. Et sa fille, je me rappelle toujours, parce que... Non, dis-lui. Je suis agriculteur, tais-toi. Alors, vous avez une discussion très, très propre au département du Tarn de la campagne. Dis-y ce que tu fais. Dis-y, vous riez parce que, mais c'est pas marrant. Hein. Dis-y que t'es un sorcier. Alors, j'ai dit, écoutez, monsieur, si vous pratiquez la sorcellerie, tu n'exauceras pas cette prière tant que vous ne vous repentirez pas. Mais je le fais pour Dieu. J'ai dit, non, vous savez très bien pour qui vous travaillez. Et je suis parti. Elle m'appelle. Elle était effondrée. Monsieur Gaud, elle me dit, mon père, tous les gens à qui il a jeté un sort sont morts. Tous. Et il vous a jeté un sort, vous allez mourir. J'ai dit, écoutez, si Dieu veut me reprendre comme ça, ce qui m'étonnerait quand même. Moi, je crois que Dieu peut nous reprendre de mille façons. Mais franchement, de cette façon-là, je n'ai pas du tout la conviction que Dieu me reprendrait comme ça. Alors j'ai écouté, si Dieu veut me reprendre, qu'il me reprenne, mais ça m'étonnerait que ça marche. Et j'ai raccroché, et je vous assure, 3 secondes après, j'y pensais même plus. Et un mois après, elle m'a rappelé, elle m'a dit, Monsieur Gaud, mon père, il est mort. Et je crois qu'il ne faut pas se moquer de Dieu, vraiment. Moi, je crois que Dieu protège ses enfants. Mais vraiment, c'est beaucoup plus puissant qu'on ne le pense. Vous rappelez quand Dieu avait demandé à Moïse, tu mettras du sang sur les linteaux et les poteaux des portes. Et tous ceux qui auront le sang seront épargnés. Ça a été des trucs terribles qui se sont passés. Quand il y a le sang de Jésus, alors le sang des taureaux c'était bien, ou des agneaux, mais je peux vous dire que le sang de Jésus est un petit peu plus efficace que le sang des agneaux. Donc si le sang des agneaux est couvert, parce que les gens ont mis leur foi dans cette obéissance, les croyants qui allaient sortir. Vous savez, Dieu est tout puissant. Moi, quand je lis ces histoires de l'Exode, quand je vois, quand Dieu dit, voilà, je passerai, et tous les premiers-nés dans chaque maison mourront. Tous les premiers-nés des animaux mourront. Mais je ne sais pas si vous réalisez, il faut être un peu puissant pour faire ça. Moi, quand la fois où j'ai lu cette histoire, je suis sorti, j'ai vu une pie. Il y avait 2 ou 3 pies. Et il dit, Seigneur, tu sais laquelle est née en premier? Et depuis, quand je vois une pie, je dis, Seigneur, c'est laquelle la première? Ça vous fait rire. Mais est-ce que Dieu sait, dans toutes les couvées, non mais prenez la couvée d'un poulet qui naissent, tu sais, ce poussin, le petit jaune, là, c'est lui qui est né en premier. C'est écrit. Alors ça vous fait rire. Parce que la façon dont je vous le dis, ça vous fait rire. Mais Dieu est tout puissant. Et quand un chrétien a accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, le sang de Jésus vous protège. Ah, vous entendez? Vous êtes protégé, vous le comprenez, vous ne le comprenez pas, Dieu vous protège. Je vous racontais l'histoire de cet homme-là qui voulait ma mort, et il y a quelques années, en même temps ça s'est passé. Il y avait une jeune fille qui venait à l'église, qui n'était pas convertie. Alors elle avait une vie de débauche. Elle venait, elle partait, elle couchait avec un gars, et puis après elle revenait 6 mois après. Un jour, un gars m'appelle, elle me dit, oui, elle vient, je ne sais plus comment elle s'appelait, cette fille, elle est dans votre église, parce que c'est une prostituée, enfin il m'a parlé d'elle, elle est dans votre église. Je dis, non, elle n'est pas membre de l'église. Je dis, elle vient de temps en temps, mais elle n'est pas membre de l'église. Je dis, mais de toute façon, plus que c'est ça, je vais vous tuer. Mais je savais qu'il y avait un combat réel. Et il m'a, pendant 1/2 heure, il m'a parlé qu'il allait me tuer. Il me l'a juré et tout. Il était furieux. Bon, je raccroche. Le pasteur qui me formait m'appelle. Il me dit, Gérard, je ne voudrais pas te faire peur, mais j'ai eu un téléphone de ce gars en question, et tiens-toi comme il faut, parce qu'il va chercher à te nuire vraiment. C'était le lundi, ça, ou le mardi. Bon, j'ai dit, Seigneur, je me mets sous ton sang précieux. Parce que là, je sentais que c'était quand même... Je savais que c'était vrai. Seigneur, je me mets sous ton sang précieux. Vraiment, j'ai fait ça. Ça a pris 3 secondes. Le jeudi, je m'en vais à Gaillac faire la réunion. Et je prenais un monsieur qui venait avec moi à l'église. Et il me dit, vous êtes au courant? Le copain a... Je ne sais pas comment il s'appelle. Aliette. On l'a retrouvé mort au feu de l'église. À 50 mètres de l'église. J'ai dit, alléluia. Il me dit, comment? J'ai dit, non, vous parlez bien du copain de Lisette. Eh bien, il a fait un arrêt cardiaque à 30 mètres de l'église. Ils l'ont retrouvé mort 30 mètres à l'église. Pourquoi je dis ça? Mes frères et sœurs, le Seigneur, il nous protège. Les puissances occultes, elles existent, elles sont là, il faut en parler. Le diable, il est déterminé. Après l'enlèvement, quand on reconstruira le troisième temple à Jérusalem, il va jusqu'à s'asseoir, il va aveugler tout le monde. Et même les Juifs vont croire que c'est le Messie. C'est pour ça qu'ils vont tolérer que donc, il faut s'attendre à ce que le chef de l'Europe, il ait des origines juives, c'est sûr. Ça, c'est une parenthèse, mais c'est évident. Vous vous rendez compte? Après l'enlèvement de l'Église, il va y avoir un dictateur mondial qui va se faire passer pour le Messie et il va, vous voyez ce qu'il veut, je m'assierai sur le temple, dans le temple, il y arrivera, parce qu'il est déterminé, et nous ne pouvons pas être déterminés aussi dans la prière, dans l'obéissance, dans la grâce, dans la compréhension. Voilà, je le répète, il n'y a que deux puissances, la puissance avec un tout petit p de Satan, et la toute puissance de Dieu avec des p majuscules, tant que vous en voudrez. C'est pour ça qu'il faut, il faut aborder ce sujet avec une entière intelligence. Elle existe, regardez dès le départ, encore, dans Exode chapitre 4. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais la prestidigitation, il ne faut pas la confondre avec la magie. Alors, est-ce que la prestidigitation, c'est de la magie? Il y a des gens, par exemple, ils font des tours de passe-passe. D'accord? Est-ce qu'il y a de la vraie prestidigitation? Oui, il y a de la vraie prestidigitation. Moi, j'ai discuté avec un prestidigitateur, parce que je voulais savoir. Il m'a dit, vous choisissez une carte d'armée. Je vous le dis parce que c'est... Il y a des gens, ils font des petits tours de passe-passe. Alors, c'est très sain, c'est très marrant. Mais le problème, c'est qu'ils basculent vite dans la véritable... qu'on appelle ça magie. Merci. Moi, j'ai vu un gars, il me disait, vous prenez un jeu de cartes, vous choisissez la carte que vous voulez, vous mettez là, et je la devine. Je l'ai fait. Une carte, je choisis. Je la remets dans le sac, dans le paquet. Voilà, vous avez choisi le 8 de trèfle. Et on fait ça plusieurs fois. Et à la fin, il me dit, vous croyez que je suis un sorcier? Et moi, je dis, oui. Non, je suis un comédien. Vous avez vu, quand je vous ai demandé de choisir une carte, ma femme était derrière vous. Mais très discrète. Et il me dit, voilà, le 9 de trèfle, mettons, c'est ça, je me gratte le nez. Le 8 de carreau, je me tire l'oreille. Ouais. L'as de pique. Ouais. Il y avait 32 signes, c'est pas le bout du monde. Vous voyez? Il me dit, si j'étais un vrai sorcier, je ne vivrais pas dans la misère où je suis. Je suis juste un comédien. Mais le gars, il me l'a expliqué. Donc, il y a de la prestidigitation, des passe-passe. Mais je peux vous dire que quand vous voyez des choses paranormales, ce n'est pas de la prestidigitation, c'est de la magie. Et moi, je vous dis, n'écoutez pas, ne cautionnez pas, ne regardez pas ces choses, même par curiosité, parce que vous faites rentrer ces choses dans votre maison. Bien sûr que vous pouvez dire, mais on est couvert par le sang du Seigneur. Mais bien sûr. Et je crois vraiment que Dieu nous garde tant qu'on est dans l'ignorance. Je le pense vraiment. Et combien de fois on a pu manger quelque chose qui était mauvais? Et pourquoi Dieu nous demande de rendre grâce avant tous les repas? Pour nous protéger. Vous êtes d'accord? Voilà. Et pareillement, on a certainement des fois été en contact avec des gens qui n'étaient pas nets du tout. Ben, Dieu nous a protégés. Oui ou non? Il n'y aurait personne ici. Il n'y aurait personne ce soir. Je serais tout seul à faire les réunions. Ah, non, en vérité, il n'y aurait personne. La grille serait fermée. Personne s'il n'y avait pas le sang précieux de Jésus-Christ. Personne. Point barre. Il n'y aurait personne dans les églises. Le diable, il ne peut pas faire certaines choses. Quand je vois que des chrétiens ont peur de la mort, que le diable, j'ai peur que le diable il me tue. Le diable, il ne peut pas vous tuer. S'il n'y a que Dieu qui nous donne la vie, qui la reprend. Vous le comprenez, ça? Voilà, c'est, et la superstition, là, on parlait de l'horoscope qui est un premier pas dans l'occultisme, mais je pense que la superstition est un premier pas aussi. Bon, tout ce que je vous dis, je ne le maîtrise pas forcément, mais je pense que quand on est superstitieux, on a la crainte. Et ce que tu crains, vous connaissez la suite, c'est ce qui t'arrive. Exode chapitre 4. Dès le départ, on voit encore une fois que Dieu veut que l'on sache que certaines choses existent. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, verset 1er. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge, donc un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein et il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du dernier signe. S'ils ne croient même pas à ces deux signes, et n'écoutent pas la voix du « Tu prendras de l'eau, du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Exode 7, verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit « Fais miracle », tu diras à Aaron, « Prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Vous vous compte? C'est impressionnant quand même. Mais regardez. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Regardez bien la suite. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas les paroles d'Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Donc, vous voyez bien, il y a deux puissances. La puissance satanique et la puissance de Dieu. Vous voyez comment Dieu est honnête, ces choses, il a voulu qu'on les sache. C'est très, très, très important que l'on sache ça. Que vous ne compreniez pas les choses, ça, c'est pas grave. Mais là, qu'est-ce que vous comprenez en lisant ce texte? Que la puissance de Dieu est plus grande que la puissance du diable. Et je peux vous dire que les sages et les magiciens de Pharaon, ils ont dû le comprendre. Croyez-moi, même Pharaon. Parce que nous, on n'est pas là-dedans. Mais je peux vous dire que ces personnes-là ont dû comprendre qu'elles s'attaquaient à quelqu'un de plus puissant qu'eux. Moi, j'ai connu un témoignage, je l'ai lu, le témoignage d'une sorcière à qui on avait dit que si Jésus était mort sur la croix, c'est que Dieu était faible, que Jésus était faible, etc. Donc, il présente la faiblesse du christianisme de cette façon. Et on avait demandé à cette femme d'aller faire de la sorcellerie sur une maison des chrétiens. Et quand Dieu lui a ouvert les yeux, elle a vu les anges autour de cette maison et qui lui ont empêché d'entrer, et elle s'est dit, mais la puissance de Dieu est en vérité plus grande que la puissance de Satan. Et c'est comme ça qu'elle s'est convertie. Il y a plein de témoignages comme ça, merveilleux, qui enseignent qu'un chrétien, il doit absolument saisir cette pensée, la puissance de Dieu est plus grande. Mes frères et sœurs, on veut glorifier le Seigneur. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai commencé de cette façon. On abordera certains sujets, vous verrez, c'est sûr que c'est intéressant. Mais n'écoutons pas les astrologues, n'écoutons pas ces gens. Ne vous amusez pas à commencer à vous informer, que vous le fassiez par des sites bibliques comme par exemple ce soir. Mais au moins, rappelez-vous d'une chose, mes brebis, elles écoutent la voix de ma voix, pas la voix des étrangers. Faites attention, beaucoup de chrétiens, moi on m'a dit, c'est un pasteur qui m'a téléphoné, pour me dire, moi je ne l'ai pas cru sur le coup, qu'il y avait deux chrétiens, deux croyants au Bataclan, le soir des attentats, qui sont morts bien sûr. Est-ce que c'était leur place? Sérieusement? Mais ils n'étaient pas croyants. Moi, j'ai dit non, ils n'étaient pas chrétiens. Ils croyaient peut-être en Dieu. Ils ont fait peut-être une expérience il y a quelques années en arrière. Mais ce soir-là, ils n'étaient pas croyants, chrétiens. Vous comprenez? Là, ils se sont mis eux-mêmes en danger. Vous voyez? Vous croyez pas? C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à ne pas donner accès au diable. Je vois que l'heure tourne. Je continue 5 minutes. Dans l'occultisme, toutes ces choses entraînent les hommes dans la mort spirituelle, la folie, la dépression et la possession aussi. Certains sont possédés parce qu'ils ont donné accès au diable. Bon, on m'a envoyé par des sites chrétiens, on m'a envoyé le témoignage de certains chanteurs. D'ailleurs, procurez-vous le livre Rock'n'Roll. Sur l'occurrence, vous allez voir que certains ont donné vraiment leur âme au diable. Mais avant, on le cachait, mais maintenant, ils le disent ouvertement. Ils le disent ouvertement, ils n'ont pas peur, c'est passé dans les mœurs. Voilà, les gens disent carrément, comme pour les gens présentent sincèrement leur homosexualité, disent, voilà, moi, je n'ai pas honte, je suis une homosexuelle, voilà, ma copine, voilà. Les gens, avant, c'était vraiment... Les gens étaient lapidés pour ça. Les sorcières en France, enfin, ceux qui étaient catalogués d'être sorciers, ils étaient tous brûlés. Je ne sais pas si vous le savez, ou décapités. On les brûlait et on les décapitait. Vous savez pourquoi on les brûlait et on... Vous savez pourquoi on les brûlait? En France, on a été fort, on a été super fort. On est fort, on est fort. Vous savez pourquoi on brûlait les sorcières ou les chrétiens? Vous savez pourquoi? On les brûlait et on allait répandre leurs cendres partout. Vous savez pourquoi? Pour pas qu'ils participent à la résurrection. Ah ouais, on a des gens forts, hein. Et il le pensait. Moi, j'ai lu des bouquins, je vous assure. Eh oui. Parce qu'à l'époque, quand même, il croyait en Dieu. Et il disait que si on décapitait les gens, il ne pourrait pas ressusciter. Ça fait rire, bien sûr. Mais c'est ce qui s'est passé. En tous les cas, on a fait beaucoup de mal avec ces choses-là. Donc, il faut faire attention. Je vais terminer pour ce soir. Il y a des gens qui voient le diable partout. Des chrétiens, hein. Des gens dans le monde aussi. Ils voient le diable partout. Il y a des gens, ils ne le voient nulle part. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, est-ce qu'il y a une position qui est mieux que l'autre? Bien sûr que non. Les deux sont... C'est là aussi, pareil. Le diable, il s'en fiche. Que les gens pensent une chose ou l'autre, c'est pas grave. Mais les premiers sont dans la crainte, tout le temps là, maladive, ils ont peur du diable. Les deuxièmes sont dans une ignorance dangereuse, mais ils sont tous les deux en danger. Vous voyez? Moi, je vois, il y a des chrétiens, ils glorifient plus le diable, ils parlent plus du diable que de Dieu. Vous l'avez jamais vu, ça? Vous avez jamais vu des chrétiens? Ils sont tout le temps en train de là, ils sont là dans une crainte. Mais moi, il n'y a pas besoin d'en parler. Je crois qu'il faut résister en obéissant. Alors, j'aurais aimé prendre presque toute une réunion pour vous expliquer comment résister au diable. Alors, un chrétien peut-il être séduit? Parce que là, on attaque le sujet quand même. Est-ce qu'un chrétien peut être séduit? Eh oui. Prenez garde que personne ne vous séduise. 2 Thessaloniciens 2, verset 2. C'est encore écrit dans 1 Corinthiens 1. Je ne sais pas si j'attaque la deuxième partie. Parce que je vois que ça fait déjà 1h30. Je continue 5 minutes. Bon, regardez dans 2 Thessaloniciens, vous connaissez le verset. 2 Corinthiens chapitre... attendez, c'est 11 ou... 2 Corinthiens... Ça va loin ces choses, vous savez. Alors, ouais, c'est 2 Corinthiens chapitre 11. Vous me donnez 5 minutes encore parce que ça risque de faire beaucoup pour certains. On continuera une deuxième fois, hein, d'accord? Ou 3, ou peut-être 3. Mais je crois que ça vaut la peine parce que franchement, c'est enregistré. Vous savez qu'il y a des milliers de gens qui écoutent. Vous l'effacerez, Michael, de la prédication. Il y a un pasteur du Gabon qui m'a appelé. J'ai le mail, je peux vous le montrer. Il m'a appelé, il m'a dit, écoutez, monsieur Gontier, à ce que vous le sachiez, parce qu'on s'est réunis avec un comité. Il y a tous les jours, au Gabon, entre 18 000 et 20 000 personnes qui écoutent une de vos prédications. Et on tenait à ce que vous le sachiez. Donc, vous comprenez l'intérêt de... Il n'y a pas que les petits Français de Toulouse qui écouteront ça. Je sais qu'il y a des milliers de gens qui écouteront. Donc, c'est important que l'on fasse les choses progressivement, graduellement. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, bon, ça, vous l'effacerez. Voilà, il est parlé de séduction. On peut partir du verset 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, bien sûr qu'il n'y en a pas un autre, mais ça aussi c'est une forme de tromperie, d'occultisme. Vous voyez, quand on croit à notre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc vous voyez, il y a un problème de séduction. Alors, on va aller à ce qui nous intéresse. Verset 13. « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Il faut faire attention, même dans les églises. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Je ne sais pas si... Moi, je sais que je ne supporterai pas. Ça m'est déjà arrivé d'arrêter quelqu'un. Il y a quelques années, peut-être personne n'était là. Il y a quelques années, vous voyez, il y a un gars, un Africain, qui commence à prier avec une ferveur terrible. Il a dit des trucs qui ne tenaient pas debout. Et le problème, ce n'est pas ça qui m'a gêné. Ce qui m'a gêné, c'est qu'il y a un tiers de la Bible, de l'Église, qui a dit Amen. Ça m'a gêné. Et il expliquait, Seigneur, tu t'es révélé à moi. Tu m'as montré vraiment des choses nouvelles. Tu m'as montré comme Moïse qui s'est marié avec l'Égyptienne, qu'un chrétien pouvait se marier avec une inconvertie. Tout un truc là-dessus. Merci pour tes révélations. Et il continue. Et puis, il est là, la moitié de l'église, presque, Amen. Alors moi, je suis monté, j'ai dit, écoutez-moi. J'ai dit, c'est pas bien ce qui a été dit. Et j'ai dit, monsieur, je vous donne rendez-vous à la fin du culte pour vous expliquer comment ça se passe ici. Et les chrétiens, je suis pas content que vous ayez dit Amen. Mais vous rendez compte, dire, ça prouve que les gens n'écoutent pas. C'est pas un reproche, c'est pas grave. Tant mieux que ça soit arrivé. Comme ça, au moins, on peut en parler. Mais écoutez, il faut écouter quand les gens disent quelque chose, si c'est des vrais apôtres, si c'est biblique, si c'est pas biblique. Alors, je ne sais pas, si vous avez un mois de conversion, Gaël, vous avez combien? 2 ans? 1 an et demi? Bon, 1 an et demi, bon, vous avez fait beaucoup de progrès. Je veux dire, c'est vrai, et c'est vrai. Mais je veux dire, il y a des gens, ils ont 20 ans de conversion, ils vont croire n'importe quoi. Et ça facilite cette accession aux puissances occultes, vous voyez? Parce que notre Jésus, là aussi, on ne va pas en parler d'une manière occulte. Mais moi, je me pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau spirituel? Donc, il y a des choses qu'il faut faire. C'est interdit. Quand c'est interdit, c'est interdit. Les sens interdits. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre un sens interdit? Jonathan, mon fils. Ton regard montre que tu as dû prendre un sens interdit une fois. Moi, je l'ai fait 2 ou 3 fois. Une fois, je l'ai fait pour fuir les gendarmes. Je n'étais pas chrétien. Ça, vous pourrez le passer. Vous voyez, je n'ai pas toujours été chrétien. Ouais, quand j'y repense. Bon, on va changer. Bon, les interdictions. Les interdictions, elles existent, les interdictions. Vous prenez un sens interdit, qu'est-ce qui peut vous arriver? Un accident, vous vous mettez en danger grave. Vous savez que vous pouvez avoir un accident et que vous êtes en tort. Eh bien, dans la Bible, il y a des interdictions, il y a des prophéties, il y a des promesses, il y a des enseignements, des exhortations, des avertissements, et il y a des interdictions. Ça aussi, ça se sépare. Et un chrétien, voilà, quand Dieu interdit quelque chose, il ne faut pas s'y engager parce qu'on risque un accident. Et ça risque de nous coûter cher. Il y a des accidents, ce n'est pas grand-chose. Vous cassez le phare d'une voiture, ce n'est pas bien grave. Vous cassez un moteur, c'est déjà plus inquiétant. Vous tuez quelqu'un, c'est déjà beaucoup plus grave. Donc, il faut tenir compte des interdictions. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est pour ça que c'est pas la peine de mettre de la pression par rapport à un sujet costaud. Il faut comprendre ces choses d'une manière intelligente. Ça ne vient pas tout seul. Ça vient par la connaissance de la parole de Dieu. Mes brebis, elles connaissent ma voix. Donc, le but de Satan, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi? Voler, égorger, détruire. Voilà, c'est son but. Et il utilise bien sûr tout cela, tous les moyens occultes, mais la violence aussi, les jeux de rôle. Est-ce que dans les jeux de rôle, vous croyez qu'il peut y avoir des sciences occultes? On en reparlera dans la deuxième étude. Donc, moi j'aimerais quand même vous donner quelques... Pour conclure, je vais vous donner les éléments de la victoire. D'accord? Un véritable chrétien, il prie, il aime la prière. Tout à l'heure, je me suis réjoui à quelques jeunes qui m'ont convoqué à côté et qui m'ont dit « Monsieur Gaud, on aimerait faire une réunion de prière. » Le samedi après la réunion, le dimanche avant le culte, on va chercher un autre moment. Ça, ça me réjouit. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que l'Église gagne. Ma maison est une maison de prière. Il y a les véritables chrétiens, il y a les chrétiens religieux et il y a les véritables chrétiens. Les véritables chrétiens, ils sont dans un bon combat, dans le repos et dans le combat. Ils peuvent combattre parce qu'ils sont dans le repos. Mais comment gagnons-nous ? Alors, je vais vous donner quelques éléments. Premièrement, l'obéissance à la parole de Dieu. Jean 8, verset, alors j'ai mis quelques versets, mais ça vous pouvez le faire vous-même. Jean 8, 10, 47. Vous savez, on va le lire celui-là, on va en lire quelques-uns. Parce que je veux que vous partiez de cette première étude avec cette assurance que vous êtes vainqueur par rapport à la puissance des ténèbres. D'ailleurs, quand on dit le Saint-Esprit convaincra de quoi ? Il convainc quoi le Saint-Esprit ? Allez. Voilà, c'est bien chrétien. De péché, de justice et de jugement. Alors quand Jésus explique le jugement, qu'est-ce qu'il dit ? De jugement parce que ? Parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc ça veut dire que le chrétien, il a la victoire. Et moi je vous dis, je savais pas comment aborder cette étude, et c'est cette semaine vraiment que j'ai compris qu'il me fallait l'aborder de cette façon-là, parce qu'un chrétien, il doit être victorieux. D'accord ? Jean chapitre 8, verset 47. Vous n'êtes pas trop déçu qu'on n'ait pas abordé trop l'aspect occulte ? Pas trop déçu ? Qui est déçu ? Je vais voir. Bon. Jean chapitre 8, verset 47. C'est important, parce que la victoire, elle doit faire partie de notre vie à celui qui vaincra. Paul disait pas « je suis vainqueur », il disait « je suis plus que vainqueur ». Vous rendez compte quelle assurance. Je suis plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jean 8, 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec ce que je vous ai dit. Moi, ça m'arrive des fois à la fin des réunions. Monsieur Gaud, je ne suis pas d'accord avec votre prédication. Je dis, mais ce n'est pas avec moi que vous n'êtes pas d'accord. C'est avec la parole de Dieu. Et ces gens-là, en principe, 6 mois après, ils ont rétrogradé. À moins qu'ils se ressaisissent. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu n'écoute pas les paroles de Dieu. Si vous lisez plus loin dans Jean, chapitre 14, verset 15 jusqu'au verset 26, ça c'est des textes que nous pouvons méditer pour nous enraciner dans cette foi. Vous voyez, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Et moi, je prierai le Père. Vous vous rendez compte ? Si on aime Dieu, on garde sa parole. Et lui-même, le Seigneur, s'engage à prier pour nous. On pourrait là aussi penser à dire merci. On dit merci pour la ventilation. Mais laissez-moi vous dire qu'on peut dire merci pour cette affaire. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure le dimanche matin avec vous. Vous vous rendez compte ? Ouais. C'est ça que vous avez ? Qu'est-ce que vous avez ? À qu'il demeure éternellement avec vous. Vous lirez la suite, verset 21. Celui qui a mes commandements et celui qui les garde, c'est celui qui m'aime, etc. Quand vous lisez ce chapitre, vous ne pouvez pas vivre dans la crainte. Regardez dans l'Apocalypse, chapitre 12. Je tiens à ce que vous mémorisiez ces versets. Vous savez, quand je le répète, parce que ça me blesse quand même, quand je vois des chrétiens superstitieux qui donnent plus de gloire à Satan qu'à Dieu avec leur crainte, laissez-moi vous dire qu'ils ne font pas l'œuvre du Seigneur. Hein. Apocalypse 12, parce qu'ils n'ont pas saisi ces choses. Apocalypse 12, verset 11. Oui, malgré le fait que le verset 10 parle du diable qui est présenté comme un accusateur qui accuse les frères jour et nuit. Regardez verset 11. Ils l'ont vaincu. À cause de quoi ? Regardez bien. Ils l'ont vaincu, le diable, à cause de leur progrès, d'un bon pasteur qu'ils avaient dans leur église. Ils l'ont vaincu, regardez bien, c'est ça, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vous avez vu ce verset ? Rien que ce verset suffirait à régler les comptes. Voilà, je dois vivre dans la victoire, parce que le sang de Jésus me donne la victoire. Ce n'est pas de la superstition, mais moi quand je sors de la maison, tous les jours, je me mets sous le sang du Seigneur. Ce n'est pas de la superstition, c'est un acte de foi. Bien sûr que ça peut devenir de la superstition. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut devenir, voilà, Seigneur, sous ton sang précieux, je me mets sous ton sang précieux, mais sous ton sang précieux. Non, mais on peut le faire par un acte de foi, et ça, Dieu le voit. L'armure complète, Éphésiens 6, versets 10 à 20. La vérité pour ceinture, voilà, ça, c'est une armure. Vous connaissez Éphésiens chapitre 6 ? Vous connaissez ? Méditez ce chapitre. La connaissance, la première arme, c'est quoi ? Aidez-moi parce que le retourne. C'est quoi la première arme ? La vérité pour ceinture. C'est la première arme que Dieu nous demande de mettre. La première arme. Cette semaine, il y a une chrétienne qui m'a appelé. Elle m'avait appelé il y a 2 ans. Son mari est directeur d'une grande boîte. Et le PDG a vraiment joué un sale tour à cet homme. Vraiment, c'était grave, très grave. Jusqu'à le licencier. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, Monsieur Gault, je vous écoute sur Internet, j'aimerais savoir ce qu'il faut faire. Et moi, quand elle m'a parlé, j'ai de suite eu à cœur ce verset de 1 Pierre. C'est ça la vérité pour ceinture, parce qu'on n'est pas vainqueur par le hasard, on est vainqueur par l'application de la parole.